Bonjour, on va poursuivre dans l'Épître aux Hébreux et on est dans le thème principal, au fond, de ce que l'auteur veut amener, au fond, les Juifs de son époque. Certains étaient des croyants en Jésus-Christ, d'autres étaient ouverts peut-être à cet évangile, mais est-ce qu'ils avaient vraiment reçu par la foi le message? Et donc, c'est pour ça que le thème du livre, en réalité, c'est le juste, selon Dieu, c'est celui qui vit par la foi. Et donc, on va essayer de mieux comprendre, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est de vivre par la foi. D'accord? Donc, on s'était laissé la dernière fois sur la déclaration que l'auteur cite, comme Paul aussi va prendre ce verset dans le prophète Habacuc. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et donc, on finit notre chapitre 10 en disant, il dit encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, on voit ici le contexte. Il est comme dans le temps d'Habacuc. Habacuc, c'est un prophète qui était dans l'époque de Jérémie, Joël et d'autres prophètes comme Nahum, qui voyaient, selon la parole de Dieu, que le Seigneur était pour permettre, appeler les Chaldéens, Nabucodonosor, pour venir envahir Israël et les déporter. Là, le jugement de Dieu s'en venait. Mais en même temps, il y avait une promesse qu'un jour le Seigneur les délivrerait. Et puis, ça devait être quelque chose de terrifiant quand même. Pensez à Daniel qui était parti aussi à l'époque, déporté à Babylone. Ils ont vécu par la foi et non par la vue. Par la vue, c'est comme si l'histoire d'Israël était à la vue finie, puisque les Babyloniens, qui étaient des conquérants, avaient conquis d'autres peuples, et là, ils étaient en train de venir les conquérir, ils vont les déporter, ils vont détruire Jérusalem, le temple va être détruit, tout va être détruit, et puis ils vont partir pour quasiment 70 ans en déportation. 70 ans, là, c'est la vie plus que d'une personne. Donc, le Seigneur leur rappelle néanmoins qu'il n'abandonnera jamais son plan avec Israël, car le Messie doit venir de la chair d'Israël, de la lignée de David. Et donc, il rappelle aux gens encore une fois, malgré ce que vous voyez, voici comment vous devez me faire confiance. Faites confiance à ce que je vous dis, plus qu'à ce que vous allez voir, qui vous donne l'impression que je vous ai abandonné. Et nous aussi, on vit finalement, ça fait 2000 ans, il y a eu toutes sortes de périodes incroyables dans l'histoire de l'Église. Eh bien, est-ce qu'on vit par la foi? Et vivre par la foi, ça veut dire vivre sur la parole de quelqu'un en qui on a confiance. Donc, ça va au-delà de nous. La foi, c'est vraiment s'appuyer sur quelqu'un en qui on a plus confiance en lui qu'en nous-mêmes. Et je sais que c'est pas à mode aujourd'hui, là, parce qu'on essaie tous de se craquer pour être « j'ai confiance en moi-même ». Mais moi, j'aime bien avoir confiance en Dieu et en Jésus-Christ qui nous a donné, en sa parole, en ses témoins qui nous a donné, qui ont ruiné leur vie humaine, plutôt que d'essayer de se faire une vie confortable. Tiens, eh bien, finalement, ils ont été des témoins véritables, dignes de confiance, au point qu'ils l'ont pas fait à leur avantage d'annoncer l'Évangile terrestre, ils l'ont fait à l'avantage des élus. Ils ont été annoncés finalement la bonne nouvelle au détriment de leur sécurité, de leur vie, et la plupart sont tous morts massacrés. Mais, puisqu'ils avaient la foi en ce que Dieu avait promis, en ce que Jésus-Christ leur avait promis, eh bien, ils attendent, comme l'auteur va le rappeler ici, rappelez-vous, tous ces gens qu'il va citer, ils n'ont pas vu de leur vie l'exaucement de ce qu'ils espéraient, parce que Dieu, finalement, à un temps précis, il va amener tout son peuple dans la cité que lui-même a construite. Et il va nous donner plein d'exemples d'hommes et de femmes de foi. Et ça, c'est vraiment encourageant parce que ça enlève souvent les faux concepts qu'on peut avoir de la foi. Trop souvent, les gens pensent que leurs doutes, tu sais, parce que des fois, on peut avoir des doutes, hein, c'est pas toujours évident, selon la vue. Mais la foi, il va nous montrer comment on vit par la foi. Et vous allez voir que puisque le Seigneur est avec nous et sa parole est véritable, et celui qui a dit ces choses, c'est notre Créateur, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui vient même vivre au milieu de son peuple, et il vient faire sa demeure en nous. C'est pour ça qu'encore une fois, notre vie devant lui, en lui, par lui et pour lui, se développe de plus en plus par la foi. Et plus vous allez apprendre à marcher par la foi, comme il va nous le montrer ici dans le livre, comment on le fait, eh bien, plus votre foi va bâtir de l'assurance et une paix malgré les circonstances. On lit encore, OK? Donc, l'auteur rappelle ici, encore un peu de temps, un peu de temps. On revient, c'est comme s'il cite le prophète encore Habacuc, et les gens qui vont le lire, n'oubliez pas, sont des Juifs. Rappelez-vous, il faut toujours ne jamais oublier à qui d'abord le livre a été écrit. Et tu sais, il faut faire attention, n'est pas de le lire directement pour nous. Si ça s'applique, si ça ressemble à notre situation, alors là, on peut mieux comprendre l'instruction. N'oubliez pas le livre qu'on appelle ici l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 1, l'introduction des livres est très importante. Il dit « Après avoir autrefois, chapitre 1, verset 1, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Donc, on voit ici que cette lettre, pour que je puisse finalement suivre l'instruction, comment je peux m'identifier à ceux à qui le livre est écrit? Eh bien, comme je vous le répète souvent, malheureusement, on est un peuple qui se croit chrétien parce qu'on est simplement au Canada et que ça fait plusieurs générations que le christianisme a été établi. Malheureusement, il disparaît et malgré l'hypocrisie de beaucoup de gens aujourd'hui, spécialement des certains politiciens, ils se disent chrétiens, mais ils vivent contrairement à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, faites attention parce que comme à l'époque de l'auteur ici, Israël pouvait prétendre être des croyants dans le Dieu vrai et véritable. Mais comme Jésus leur a rappelé, si vous aviez vraiment cru Moïse, vous m'auriez cru. Parce que Moïse avait annoncé le juste qui devait venir. Et donc, on voit qu'il peut y avoir, on peut se faire des accroires. On peut finalement, tu sais, non, moi je suis Canadien, blablabla. Comme je vous rappelle, tu sais, quand Chantal, qui m'avait annoncé l'Évangile, et puis que les jeunes revenaient de la plage, j'avais mis ma tante à côté de la leur. Et puis, pour eux, vu qu'il y avait personne qui s'était mis autour de leur tante, parce qu'ils avaient mis une affiche, tu sais, un panneau, qui est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Signé Jésus. Alors, la plupart des gens qui faisaient du camping à la Spiguette, ils ne se mettaient pas à côté de cette tente-là, comme s'ils avaient peur d'eux autres. Mais moi, écoute, j'avais pas de place, puis j'ai été mettre ma tente à côté d'eux autres, puis je me dis, ah ben écoute, s'ils sont trop fatigants, j'ai mon passeport, j'ai toujours mon billet d'avion, je retournerai au Canada, c'est tout. Et quand j'ai vu les jeunes arriver, eh bien, Chantal, puis les autres étaient contents, disaient, hey, il y a quelqu'un qui s'est mis à côté de notre tente. Et Chantal me dit, bonjour. Bonjour. T'es chrétien? Et moi, finalement, justement, comme ici les Juifs de l'époque, j'ai répondu parce que je ne comprenais pas du tout l'Évangile encore à l'époque. Tu sais, dans le sens, j'étais sûr que j'étais automatiquement un chrétien parce que je suis né au Canada et puis j'ai été baptisé quand j'étais tout petit bébé et ainsi de suite, là, tu sais. Et puis, je dis, ben oui, je viens du Canada. Et puis, finalement, là, réalisais que, un peu comme les Juifs pensent qu'eux autres sont automatiquement sauvés parce qu'ils sont nés de la chair d'Abraham. Vous vous rappelez, il disait souvent ça à Jésus. Non, non, nous, on n'est pas esclaves de personne. On est la descendance d'Abraham. Oui, mais si vous n'avez pas la foi d'Abraham, si on n'a pas la foi d'Abraham, eh bien, vous n'êtes pas de son peuple. OK? Donc, c'est pour ça qu'il leur écrit ici, pour leur dire, est-ce que vous avez la foi d'Abraham? Et c'est pour ça qu'il va développer maintenant ici, dites, faites attention de penser que vous êtes automatiquement sauvés parce que vous êtes finalement soit né dans une famille chrétienne ou encore une fois parce que, je ne sais pas, tu sais, vous avez participé ou inscrit dans une église, peu importe. Encore une fois, Est-ce que vous avez mis votre foi dans l'unique Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ? Ça, c'est vraiment important. Donc, il va dire ici, nous, comme à l'époque du prophète Habacuc qui voyait les Chaldéens s'en venir, Jérémie leur annonce, c'est fini, on va tout en déportation. Mais le Seigneur nous a promis qu'il était pour nous ramener en temps et lieu. Les 70 ans étaient déjà annoncés d'avance. C'est pour ça que même des hommes comme Daniel et les autres à Babylone ont commencé à prier, même plus tard avec Néhémie et Esdras, d'être ramenés. Parce que selon la promesse de Dieu. Et le Seigneur l'a accompli. Et c'est pour ça qu'il dit, mon juste vit par la foi, pas par la vue. Et la foi, comme Paul nous le rappelle, dans Romains 10, nous rappelle que la foi vient. On l'invente pas, la foi. Oubliez pas, la foi, là, c'est pas d'essayer de se faire un genre d'autosuggestion. La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Est-ce que j'ai confiance en lui? Si j'ai confiance en lui, inévitablement, il faut que je le manifeste en ayant confiance dans ce qu'il dit. Je peux pas dire que je crois en Jésus-Christ et je crois en Dieu si je ne crois pas dans sa parole. Comprenez? Donc, il dit, c'est pour ça, il dit, mon juste, c'est pas celui qui est capable par lui-même d'être juste. C'est celui, finalement, qui me fait confiance. Et le Seigneur nous a promis ici dans sa parole, juste un peu avant, vous rappelez, il dit, finalement, quelle est la nouvelle alliance? Qu'est-ce qui va être la différence avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Au chapitre 10, on se rappelle, il dit que par une seule offrande, Jésus-Christ mourant sur la croix, du calvaire pour nous, comme étant l'agneau de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'il est mort à la Pâque. Donc, il a tout montré encore une fois qu'il était fidèle aux Écritures. C'est sa parole. Et donc, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mis à part par le Saint-Esprit à cause de la foi qu'on a en Christ dans son sacrifice pour nous et sa résurrection. Et là, qu'est-ce qui arrive après? Il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, et là il cite ici encore une fois les Écritures dans Jérémie 31-31, ce qui était annoncé d'avance. Tout est en fonction de ce qui est annoncé et c'est parfaitement accompli. Et l'auteur ramène sans arrêt les Juifs vers les Écritures en disant, si vous dites que vous croyez en Moïse, si vous dites que vous croyez dans les prophètes et dans la parole de Dieu, rappelez-vous ce que Jérémie nous a dit, la nouvelle alliance. Jérémie dit que Dieu va faire une nouvelle alliance. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et donc ça, c'est plus fort que simplement un genre de « je suis d'accord intellectuellement avec la chose ». Non, ça va carrément être une lumière interne. Un peu comme Paul le rappelle aux Éphésiens 1, 18, vous rappelez, quand il parle aux Éphésiens, il prie pour eux en disant, verset 16, il commence en disant, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Voici qu'est-ce qu'il priait pour eux. Et comment on peut prendre les prières de Paul pour les faire pour nous-mêmes et pour l'Église? Il dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Jésus nous a rappelé que la vie éternelle, si vous l'avez, la vie éternelle, il dit, c'est de connaître le vrai seul Dieu vivant et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dans sa connaissance, qu'il illumine. Le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu pour illuminer notre entendement. Comme il dit ici, il va écrire finalement dans notre cœur. Ça va être plus que juste une connaissance intellectuelle. Ça va devenir une lumière dans laquelle on va voir la lumière. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoute, on est destiné à quelque chose que Dieu a bâti, que Dieu bâtit. Il bâtit une nouvelle création. Il bâtit, comme on pourrait dire, selon l'expression de l'Épître aux Hébreux, une cité bâtie par Dieu. On s'en va dans un monde recréé par Dieu. Maintenant, si vous négligez un si grand salut, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, Est-ce que vous réalisez comment vous allez vous tourmenter pour l'éternité d'avoir, au fond, déclaré Dieu comme un menteur? Si j'ai confiance en quelqu'un, mais je ne fais pas ce qu'il me dit, ben c'est pas vrai que j'ai confiance dans la personne. J'ai plus confiance en moi qu'en lui. Le vrai croyant, c'est celui qui apprend à se renier pour croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que Paul prie que vraiment le Saint-Esprit continue d'illuminer notre cœur, les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse savoir c'est quoi l'espérance dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui, au-delà de tout ce qui se passe autour de nous. Il dit « Et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Est-ce que si vous êtes né de nouveau, vous êtes en Jésus-Christ? Et inévitablement, selon le texte ici, nous sommes aussi assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes avec lui dans le lieu très saint. Et quand nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons accès au trône de la grâce, au trône du Tout-Puissant, afin qu'il nous accorde d'abord sa sagesse. Illumine, Seigneur, les yeux de notre cœur. Instruis-nous par ta parole, afin que nos prières ne soient pas inspirées par notre chair ou encore l'esprit de ce monde, mais qu'ils soient plutôt, Seigneur Dieu, inspirées par la connaissance de ta volonté, discernant tes œuvres, afin qu'on y marche. Et là, de plus en plus, on va marcher avec toi pour te connaître. Donc, c'est pour ça que l'auteur va nous donner ici plein d'exemples de ceux qui ont vécu par la foi. Et encore une fois, il s'adresse à des Juifs qui disent, ces gens-là sont, au fond, on pourrait dire nos ancêtres. Ils s'identifient à eux. Il dit, parfait, si vous identifiez à eux, est-ce que vous avez la foi qu'ils avaient? Si vous vous identifiez en disant que vous êtes de la postérité d'Abraham, est-ce que vous réalisez que vous avez la foi d'Abraham ou non? Parce qu'oubliez pas, Abraham, Dieu a permis finalement qu'il essaie d'avoir un fils avec la servante de sa femme, qui est Ishmaël. Mais en réalité, c'est le fils selon la promesse qui est vraiment l'héritage, qui est la promesse. Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Ça, c'est quelque chose que, tiens, travaillons là-dessus sérieusement. Allons voir le Seigneur pour qu'il puisse fortifier notre foi et allons lui faire connaître tous nos besoins, toutes nos craintes, toutes nos faiblesses, en disant, Seigneur, tu es venu sauver ce qui est perdu. Je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu dis que nul ne vient au Père que par toi. Et tu dis aussi que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Alors, venez au Seigneur, vous par la foi, et encore une fois, exposez toutes vos craintes, tous vos problèmes, toutes vos limites, pour que le Seigneur puisse se servir de tout ça pour vraiment se montrer en Jésus-Christ, notre Dieu maintenant. Et Dieu dit, fais-moi connaître tes besoins, car moi-même prends soin de toi. Et ça, c'est comme ça qu'on passe de la foi qu'on reçoit par la parole à on l'a connu. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il dit, contrairement à beaucoup au travers de toute l'histoire d'Israël, parce que Paul aussi rappelle ça dans Romains chapitre 9, il dit, faites attention, c'est pas que la parole de Dieu n'a pas d'effet, c'est que si Israël a été infidèle dans la majorité, et c'est pour ça qu'ils ont eu de la discipline souvent, ils se sont même tournés souvent vers les idoles des païens, ils ont abandonné le vrai Dieu qui les avait appelés, et pour souvent se tourner vers les dieux de ce monde, qui sont des faux dieux. Combien de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui parce qu'on est au Canada, se tournent vers des faux dieux? Ils sont en train de se faire une illusion en pensant, ah non, si Dieu existe, moi je suis un chrétien, je suis né au Canada, blablabla. Et faites attention de passer à côté, s'il vous plaît. Et prions que notre pays, et spécialement la province de Québec, qui est dans des ténèbres profondes, on est pogné dans la secte des athées. S'ils pensent que nous autres, on est une secte, moi j'aimerais ça le rappeler à eux autres aussi. Faites-vous-en pas, vous autres aussi, vous êtes une secte. Et maintenant, vous êtes aussi en train de prendre le pouvoir pour vous imposer votre croyance même à nos enfants et à nos petits-enfants. Je n'irai pas plus loin, ça va gâcher le message. Donc, il dit, Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce qu'à l'époque, le croire dans le Seigneur Jésus-Christ, là, il y avait un prix à payer. Comme certains de nos frères et sœurs dans le monde entier. Vous savez que la religion la plus persécutée du monde en ce moment, c'est les chrétiens. Mais les médias n'en parlent pas. Parce que c'est une gang de vendus, là, tiens. Ils sont en train tout simplement de manifester leur mépris ouvert envers Dieu et envers Jésus-Christ et envers son peuple. Et ça, il va y avoir des conséquences à ça. Il va y avoir des conséquences. Parce que nos œuvres, ce qu'on vit, ce qu'on manifeste, est au fond la manifestation de ce qu'on croit. Si vous croyez dans les idoles de ce monde, ça se rend compte par comment on vit. Donc, c'est pour ça que Jacques va nous rappeler que la vraie foi qui sauve, il n'a pas dit ici que les œuvres sauvent. C'est par la foi, comme Paul dit, c'est par la foi seule, sans les œuvres, qu'on est sauvé. Et Jean qui est d'accord avec Paul, sauf qu'il va dire, par exemple, lui aussi à des Juifs de son époque. N'oubliez pas, il écrit encore une fois à des gens, parce que quand c'est, je ne sais pas si c'est dans votre, la meilleure traduction, quand il parle, si un pauvre rentre dans votre assemblée. Ce n'est pas le mot assemblée ecclésia dans le texte original. C'est si quelqu'un rentre dans votre synagogue. Parce que, encore à l'époque, il y avait des synagogues où des gens se tournaient vers Christ et d'autres n'étaient pas sûrs encore. Et là, il leur dit, écoutez, faites attention, parce que est-ce que vous avez, dites pas que vous avez la foi en Dieu générale, parce que vous êtes dans une culture biblique. Parce qu'en réalité, vous savez, même le diable croit en Dieu, et lui, là, il en tremble, parce qu'il sait finalement qu'il est vaincu par Jésus-Christ. Et il sait ce qui l'attend bientôt. Car l'enfer a été créé pour lui et ses anges et ceux qui vont rester finalement à suivre le mensonge. Donc finalement, ces 12 auteurs-là rappellent encore une fois à des gens qui ont l'impression d'être des automatiquement sauvés à cause de l'ethnie dans laquelle ils vivent. Et donc c'est pour ça que le livre de l'Épître aux Hébreux peut vraiment s'adresser à nous autres, des nations qui se disent chrétiennes depuis des générations et des générations. Donc, il va dire, on n'est pas de ceux qui se retirent. Combien de gens se retirent des églises? Quand j'étais petit, là, les églises là, étaient pleines. Il y avait 2-3 cultes. Tout le monde se disait chrétien. Je me rappelle quand j'étais petit, je me disais, wow, je suis content d'être né au Canada. T'sais, on est tous chrétiens. T'sais. Mais c'était une illusion parce que la journée que Dieu va mettre un test, la journée que, t'sais, dans le sens, on est des suiveux. Hein? Puis pas rien que nous autres, on se fait accuser, les chrétiens, d'être des suiveux. Mais les suiveux, finalement, des athées aujourd'hui, bon, ben, c'est des suiveux aussi. OK? Donc, finalement, c'est intéressant de voir qu'il a permis que quelques gratteux de guitare ont commencé à dire que Dieu n'existait pas, puis on va vivre n'importe comment, puis, tu sais, on va avoir, je sais pas, une nouvelle culture de valorisons la débauche sexuelle, la liberté, tu sais. Puis aujourd'hui, bien, on est rendu une société de faillés pas mal. T'sais. Et bien, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Beaucoup de gens au Canada, spécialement au Québec, se sont retirés. Plutôt que de dire, OK, peut-être ça a été pas bien enseigné. OK, ça se peut. Maintenant, tu peux faire une réforme. Tu peux revenir aux Écritures pour dire, est-ce qu'on sert et on croit Dieu comme ça doit être fait? Mais c'est devenu plus souvent pour les gens une excuse. Tu sais, moi, ça me fait penser, tu sais, quand t'es petit, là, en tout cas, moi, j'étais pas gentil là-dessus, là, je collectionnais les erreurs et les fautes de mes parents pour dire, si jamais ils me pognent à faire le mal, eh bien, moi, je vais être capable de leur reprocher, tu sais. Et puis, c'est comme ça que je me suis perdu dans mon adolescence et je suis tombé dans des angoisses, pas à peu près. Mais par sa bonté, le Seigneur m'a racheté. Et je me rappelle un jour, j'étais tout nouveau chrétien, tout jeune chrétien, je priais pour mes parents, mais avec mépris. Non, j'étais vraiment, tu sais, un peu arrogant, tu sais, puis, tu sais, je priais, brise-les, Seigneur, brise-les. Et puis, à un moment donné, j'ai une conviction forte de péché, le fameux passage, honore ton père et ta mère. C'est comme si le Seigneur dit, non, tu ne prieras pas en manque de respect envers eux. OK, je te demande pardon. Et là, j'ai commencé à prier pour mon père et ma mère, mes frères et sœurs, pour que, Seigneur, comme toi, tu as été bon et miséricordieux pour moi. Tu ne m'as pas sauvé parce que j'étais meilleur. C'était moi le plus pourri des enfants de la maison. T'sais? Vraiment, je ne fais pas ça juste pour faire de la vétérinaire. C'est officiel. Je me perdais. J'étais perdu au point que je commençais à flirter dans ma tête avec l'idée de me suicider. tellement j'étais désespéré de ce que je vivais, tellement j'étais mal à cause de toutes les stupidités que j'ai faites qui m'ont entraîné dans quelque chose de terrible. Mais Dieu m'a sauvé par pure grâce. Un amour qui ne dépend pas de ce que je sois si aimable. C'est pas moi qui ai stimulé Dieu qui m'aime. C'est lui qui nous a aimés le premier et il m'a montré qu'il m'aimait. Et là, c'est comme s'il a brisé mon arrogance envers ma famille qui ne voulait rien savoir. T'sais. Et aujourd'hui, ça a changé énormément. Donc, c'est pour ça que je demande au Seigneur, regarde Seigneur, il y a juste toi qui peux faire par ton amour et ta toute puissance. Seigneur, je ne peux pas compter sur la capacité des gens. Les gens, au contraire, comme tu le dis dans ta parole, ils font tout pour te fuir et vivent à leur manière, même si c'est en train de les perdre. Mais toi, dans ton amour, ta gloire, comme Moïse t'a demandé, montre-moi ta gloire, tu lui as montré que ta gloire, Seigneur, dans Exode 33, je pense, eh bien, c'est que tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde et tu fais grâce à qui tu fais grâce et que tu es lent à la colère. Alors, le Seigneur, il ne va pas aller sauver juste les plus gentils. Il sauve lui-même qui il veut. Il va arracher finalement de la main de l'ennemi qui nous tient captifs contre Dieu. Et puis finalement, il enlève la pierre puis il met un cœur de chair. Que le Seigneur puisse vraiment manifester son amour incompréhensible, mais son amour qui est pour nous ce qui nous sauve. Il nous a tellement aimés, il a tellement aimé le monde qui est en rébellion contre lui, le monde qu'il méprise, le monde qui crache sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, c'est son amour. Parce que finalement, quand il l'a présenté au baptême, il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il nous a donné son amour en personne, afin que il nous manifeste encore une fois sa compassion. Et donc, c'est pour ça que lui dit aux gens de son époque, nous, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre. N'oubliez pas, on est responsable aussi. Oui, je crois à la souveraineté de Dieu sur le salut, même si ça fait flipper bien du monde, je le crois. Mais en même temps, ça n'enlève pas du tout notre responsabilité. Je sais que ça a l'air comme un parallèle bizarre, parce que les gens disent, quoi, c'est soit un, soit là. Non, non, non. Parce que le Seigneur nous montre quelque chose de très clair dans la parole. Paul, quand il annonce l'Évangile, entre autres au chapitre 13, les Juifs là, vont se soulever contre lui parce qu'ils sont jaloux. T'sais, Paul, il vient à la synagogue, t'sais, il dit au chapitre 42, verset 13 des Actes, lorsqu'il sortit, il pria, ils ont demandé au prochain Shabbat suivant de parler sur les mêmes choses, OK? Parce que n'oubliez pas ici, il rentre dans la synagogue, et puis il est à Pisidie, là, tiens, à Antioche de Pisidie. Et puis là, finalement, il va tout donner l'Évangile dans la première partie du chapitre 13 des Actes. Et là, les gens, wow, sont vraiment touchés. Et puis, ils vont dire, OK, la semaine prochaine, tu peux-tu revenir pour reparler sur les mêmes choses? Et regardez ce qui est arrivé. Verset 43 dit, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivent Paul et Barnabas, parce que finalement, il dit, il était, tu sais, ils l'ont suivi après la réunion, tu sais, puis Paul et Barnabas ont continué à développer le thème avec eux autres durant la semaine. Et ça a tellement touché les gens, non seulement des Juifs, mais même des prosélytes, en d'autres mots, des Grecs, on va dire, là, tu sais, qui s'étaient tournés vers le judaïsme en disant, mais ça, c'est une religion qui fait plus de sens que toutes nos idoles, nous autres, qu'on a. Et puis, et là, il les exhorte à rester attachés à la grâce de Dieu. Parce qu'il leur parle de l'Évangile. On est sauvé sans les œuvres, par pure grâce. Mais si vous avez vraiment la foi qui sauve, ça va être manifeste dans l'amour que Dieu vous a manifesté. Vous allez le manifester envers les autres. Il dit, le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Écoute, c'est merveilleux. Mais regardez ici. Quand Dieu touche les intentions du cœur, on se trompe nous-mêmes. Regarde bien ce qui est écrit, c'est génial. Les Juifs, donc la synagogue, voyant la foule, plutôt que d'être contents de voir finalement que la parole de Dieu les a atteints, non, il y a des gens qui vivent pour leur propre gloire. Ils disent qu'ils vivent pour la gloire du Seigneur? Pas sûr. Les Juifs, voyant la foule, quasiment toute la ville s'est rassemblée finalement dans leur synagogue puis dehors. Ils furent remplis de jalousie. Ils furent remplis de jalousie. Pourquoi? Parce que ces gens-là bâtissent leur justification sur leurs œuvres. Et là, ils ne sont pas responsables en ce moment de voir toute la ville venir entendre le message de l'apôtre Paul et de Barnabas. Et plutôt que de se réjouir d'avoir appris à être des serviteurs de Dieu, non, ils veulent être des méritants de salut de Dieu. Ils n'ont carrément pas compris la grâce de Dieu. Et ils sont jaloux, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Plutôt que de se réjouir de ce que le Seigneur manifeste sa compassion et sa grâce à cette ville, eh bien, eux, ils vont s'opposer à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Incroyable, hein? Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. » Les Juifs étaient le seul peuple sur toute la planète qui contenait les oracles de Dieu et les promesses de Dieu. Il dit, c'était d'abord vous qui auriez dû comprendre les premiers. C'était pour vous d'abord. Il dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez ici, ils sont responsables d'être perdus. Ils disent, puisque vous la repoussez, la bonne nouvelle, puisque vous voulez encore parler de vos œuvres, de vos mérites, plutôt que de la compassion et de la grâce de Dieu en nous donnant le Messie et le Sauveur, ce qu'ils avaient écouté dans un premier temps, parce que le samedi d'avant, là, dans la synagogue, ils ont écouté le message de Paul. Il l'écoutait en disant, wow, ok, hey, c'est génial ce que tu dis là. Mais est-ce que ça, la parole que Paul donnait, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, est-ce qu'ils l'ont reçue avec foi ou la parole n'a pas trouvé la foi dans leur vie? Non, parce que la journée qu'ils ont vu finalement que Dieu faisait une œuvre, eh bien, ça leur révélait qu'eux, ils ne servaient pas le Seigneur. C'était des petits entrepreneurs ou ce qu'on appelle au Québec des boss de Bécosse. Et puis là, il était renversé parce qu'il n'y avait aucun mérite face au succès de voir que la parole de Dieu rassemblait toute la ville pour venir entendre la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout démoli le message, ils se sont opposés à Paul, ils ont tout fait pour que ça soit annulé, brisé. Ils voulaient, en d'autres mots, au nom de leur succès, perdre le restant de la population. On est pourri profondément. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le voir. Et c'est pour ça que les gens préfèrent les ténèbres que la lumière. Et là, on voit aussi qu'on va être responsable d'être perdu, ceux qui ne font pas attention. T'sais? Donc, l'auteur va commencer à nous donner des exemples de ceux qui ont cru. Parce qu'il dit, regardez, il y a des gens qui ont cru. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il donne vraiment la définition en disant, d'abord, la foi vient de ce que j'entends. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. Pourquoi c'est une ferme assurance? Parce que c'est à cause de qui a dit le message. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Qui nous a promis la vie éternelle? Qui dit que Dieu nous aime? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui nous a dit qu'il nous aimait. Dieu nous dit qu'il nous aime. Et c'est un mystère pour beaucoup d'entre nous. Et c'est une libération absolument incroyable. Dieu nous aime de toute son éternité. C'est ça qui est fascinant. Dieu vraiment nous aime. Et Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le mal qu'on a fait. Alors c'est pour ça qu'il s'incarne pour venir prendre notre place. Et il paye la dette de tous ceux qui vont venir à lui. Et c'est pour ça que dans le Notre Père, il dit « Pardonne-nous nos offenses ». Et si on croit vraiment qu'on a été pardonné, et là, c'est beaucoup plus facile pour pardonner ceux qui nous ont offensés. Rappelez-vous dans Matthieu 18, l'histoire du gars qui devait une fortune incroyable, et puis le riche, il pardonne la dette, et puis lui, il rencontre un de ses chums après, qui doit, je ne sais pas, à peine 50 piastres, et puis il est dur avec lui, il est méchant avec lui, il veut détruire la vie de ce gars-là. Il fait mettre en prison pour dire « Tu vas tout me rembourser! » Et ça, le Seigneur dit « Savez-vous quoi? Ça, là, vous avez ici un faux croyant. Vous avez quelqu'un qui n'a pas cru dans le pardon. Parce que finalement, il cherche la vengeance, eh bien, on va se servir de la mesure que tu t'es servi. » Jean qui nous rappelle ici que si quelqu'un veut triompher du jugement, c'est par la miséricorde. Les gens qui n'ont pas la miséricorde dans leur vie et qui sont méchants envers les autres et qui cherchent toujours comment détruire les autres au nom qu'ils sont meilleurs que les autres, ces gens-là vont rencontrer le Seigneur un jour. Ils ne sont pas, en d'autres mots, en train de manifester comment ils ont été l'objet de l'amour et de la grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça ici qu'il va nous donner ici, écoutez, notre foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons. On espère que, oui, on croit que Dieu nous a pardonné sur la déclaration que Jésus nous a dit. C'est sur une parole qu'on croit qu'on est pardonné. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tourne-toi vers lui et dis-lui, oui, je suis coupable. Et puis le Seigneur, finalement, est venu pour les coupables et il vient, entre autres, pour ceux qui marchent dans la lumière en acceptant de voir toute l'horreur de leur vie. Et il dit, ceux qui marchent avec lui dans la lumière, le sang de Christ les purifie de tous les péchés, de toutes les iniquités. On est purifié par le sang de Jésus. C'est ce que l'auteur travaille sans arrêt dans cette épître. Donc, est-ce que vous le croyez? Et après ça, est-ce que, si vous le croyez, on va le voir par la démonstration? C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il va dire, pour l'avoir possédé, cette foi qui sauve, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dieu leur a rendu un témoignage public. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont cru dans le Seigneur. Ils ont cessé de croire en eux-mêmes et ils ont mis leur confiance dans la promesse de Dieu. Depuis le début de la Bible, Dieu a promis, après que les premiers humains ont détruit l'alliance avec Dieu, séparé de Dieu, le Seigneur finalement rappelle aussi qu'à cause de la faute d'Adam dans le jardin, même la terre, toute la création est sous la malédiction parce qu'elle avait été mise sous la bénédiction d'Adam qui était en connexion avec Dieu. L'homme et la femme devaient gérer finalement la création complète. Ils devaient dominer la création complète. Mais tant qu'ils étaient sous Dieu, mais étant séparés de Dieu, ils ont entraîné non seulement leur vie dans la mort, mais ils ont entraîné toute la création dans la destruction. C'est pour ça qu'il dit, le sol est maudit à cause de toi, il ne te produira plus finalement le fruit comme avant. Là, il va te poser des ronces puis des épines. Et c'est pour ça que la création, comme Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 8, elle attend la révélation des fils de Dieu. En d'autres mots, quand on va ressusciter, la création elle-même attend notre résurrection pour être même elle-même arrachée de la perdition en ce moment qui la détruit. Écoutez, on s'en va vers quelque chose de fascinant. Donc, on va se le rappeler, on va s'encourager afin qu'on ne vive pas que par la vue de ce qui se passe ici, mais de vivre de la parole de Dieu. Lui, ce n'est pas un menteur. Ça, là, on peut compter sur lui. Donc, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, on va, la semaine prochaine, continuer à voir les exemples qu'il va donner. Je voulais rester encore dans l'introduction de l'auteur parce que c'est vraiment important. J'ai trop peur que des gens négligent la foi véritable. Parce que c'est trop facile de penser que parce qu'on fait partie d'un système, qu'on fait partie d'une église, ou parce qu'on a lu des livres, t'sais? C'est facile de parler. C'est une autre chose de vivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, et Dieu voulant, on se retrouve dimanche prochain.